Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Le sport est un antidote efficace contre la mollesse et la vie facile. Il réveille le sens de l'ordre et éduque à l'épreuve. Amis auditeurs, bonjour. Déjà en 1945, le pape Pie XII avait saisi tous les effets bénéfiques de la pratique sportive comme école de vie. Plus récemment, le pape François déclarait que le sport est un langage universel qui transcende les frontières, les religions et les langues. Aujourd'hui, le monde du sport revêt des enjeux très importants pour les nations. En effet, c'est un moyen pour elles de s'affirmer sur la scène internationale, tant et si bien qu'en analysant les rencontres sportives, l'on peut y lire en filigrane les tensions ou les dynamiques géopolitiques. Alors, le sport est-il le révélateur de ce qui se cache en coulisses, dans les bureaux cachés des grands chefs d'État? C'est dans ce monde que je vous propose aujourd'hui de plonger, amis auditeurs. Vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Je reçois aujourd'hui Kevin Vessière. Bonjour, monsieur Vessière.
Bonjour.
Kevin Vessière, vous êtes le fondateur de FC Geopolitics, une plateforme de vulgarisation de la géopolitique et du sport qui compte plus de 70 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Invité régulier des médias pour vos analyses, vous écrivez en 2024 Géopolympics, les grandes histoires géopolitiques des Jeux Olympiques aux éditions Max Milo. En guise d'introduction, monsieur Vessière, pourquoi le sport est-il politique ?
Le sport est politique parce qu'il reflète finalement, c'est un reflet des dynamiques géopolitiques mondiales, du fait aussi que le sport a pris de plus en plus de poids, notamment par son poids médiatique, et aussi qu'au niveau international, c'est un symbole national pour les pays, un porte-étendard. On peut dire qu'aujourd'hui, pour être un État en tant que tel, il faut une population, il faut aussi un territoire et un gouvernement, mais aussi soit une équipe de football, soit en tout cas une présence sportive impactante pour... En tout cas, être visible à la surface du monde. Donc, c'est possible pour les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Chine et aussi les puissances européennes comme la France. Mais pour d'autres pays, c'est aussi un marqueur important pour être visible aux yeux du monde. Donc, on pense notamment à l'exemple de la Jamaïque à travers ses performances en athlétisme, mais aussi à d'autres pays qui n'ont pas forcément de culture sportive par les résultats, mais qui cherchent en tout cas à s'y insérer pour redorer leur image, et ça peut s'intégrer à une politique de soft power. Et là, on pense effectivement aux pays du Moyen-Orient, avec en premier lieu le Qatar.
Il y a quelques jours, M. Vessière, Valérie Pécresse déclarait que, je cite, « le sport doit être protégé de la géopolitique ». Est-ce que c'est possible que le sport soit protégé de la géopolitique ? Est-ce que c'est même souhaitable ?
Après, je pense que la déclaration de Mme Pécresse s'inscrivait dans un cadre d'actualité par rapport au match France-Israël qui a eu lieu en tout cas ces derniers jours, et puis suite aussi aux événements d'Amsterdam. Et donc c'est pour ça que là-dessus, il y avait un certain appel au calme, et donc de ne pas vouloir en tout cas mélanger sport et géopolitique pour ne pas qu'il y ait de débordement, en tout cas dans le stade et aussi aux abords. Donc je pense que c'était plus un appel finalement au calme. Après, si on nous déconnecte de cet événement-là, le sport et les géopolitiques, ça ne peut pas être décoré, parce qu'il y a des enjeux en fait économiques et aussi de puissance derrière. On le voit notamment par rapport à la présence des différentes délégations aux Jeux Olympiques. On peut le voir aussi notamment par l'investissement de la Chine, qui veut en tout cas avoir une équipe de football nationale performante. Et c'est encore loin d'être le cas, parce que en fait, participer à une Coupe du Monde et gagner des matchs, c'est aussi un marqueur de puissance dans cette guerre de puissance entre États-Unis et Chine. Donc non, sport et géopolitique ne peuvent pas être décorrélés, mais par contre après, c'est sûr qu'il ne faut pas donner au sport un poids géopolitique qu'il n'a pas. Il peut aider à améliorer des relations diplomatiques. On pense notamment à l'exemple du match de la paix entre les États-Unis et l'Iran lors de la Coupe du Monde 98. Mais là-dessus, ça s'inscrivait dans un processus de rapprochement diplomatique. En aucun cas, c'est d'abord un événement sportif c'est pas un événement sportif qui va acter un rapprochement diplomatique. Ça va s'inscrire dans un processus. Et vu que c'est beaucoup plus médiatique, beaucoup plus visible, beaucoup plus symbolique, c'est là où ça peut avoir de l'importance.
Dans le match France-Israël, on s'attendait à des débordements qui n'ont finalement pas eu lieu. Est-ce qu'il y a d'autres matchs qui ont donné justement proie à des débordements auxquels on ne s'attendait pas, qui étaient directement dus à la situation géopolitique des pays en jeu ?
Après, effectivement, tous les matchs qui impliquent des sélections israéliennes ou palestiniennes, est toujours un enjeu qui peut dépasser le cadre sportif. Après, on pense aussi aux sélections nationales des pays des Balkans, notamment... compte tenu du contexte, et puis toujours des contextes assez durs entre des matchs entre la Serbie et la Bosnie, ou Serbie et Albanie. Et après, là-dessus, il y a toujours en tout cas des matchs aussi qui sont finalement interdits. Je pense notamment au cadre de l'UEFA, donc qui est l'Organisation européenne de football. Donc il n'y a pas de match qui est possible entre, par exemple, la Russie et l'Ukraine, effectivement, du fait de la guerre. Aussi entre l'Ukraine et la Serbie, du fait finalement que la Serbie est plutôt alignée avec les positions russes. Et on pense notamment à des matchs qui ne peuvent pas avoir lieu, notamment entre Espagne et Gibraltar. Parce que le Gibraltar a une équipe de football, mais ils ne peuvent pas jouer contre l'Espagne, parce que l'Espagne ne reconnaît pas Gibraltar en tant que territoire d'outre-mer britannique. Et en tout cas, il y a une contestation à ce sujet. Et ceci est le cas par rapport pour les matchs aussi avec la sélection du Kosovo, qui ne peut pas jouer contre certains pays, parce que certains pays, en fait, ne reconnaissent pas le Kosovo au niveau international. Et donc, en fait, jouer contre une équipe nationale du Kosovo, ce serait en fait un geste pour qui acterait qu'ils reconnaissent en partie le Kosovo. Donc ça ne pourrait pas s'inscrire dans leur politique diplomatique globale. Et après, il y a d'autres matchs qui peuvent être tendus. Et l'exemple le plus flagrant que j'évoque dans l'un de mes premiers livres, Football Club Géopolitique, 22 histoires pour comprendre le monde, c'est là où on a vu que le football pouvait dépasser le cadre du sport et même aller jusqu'à la guerre, même si c'était un parallèle beaucoup trop rapide. C'était un match entre l'Honduras et le Salvador, qu'on a surnommé la guerre du football. Donc c'était trois matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Mexique en 1970. Et du fait, en fait, des tensions qui étaient déjà présentes entre les deux pays, il y a une guerre qui va avoir lieu à la suite de ces matchs, mais parce que ces matchs, finalement, vont en tout cas illustrer le rapport de force qu'il y avait entre ces deux pays-là, et ça a été un prétexte pour les deux gouvernements pour se faire la guerre. Mais comme je vous expliquais, le sport peut être instrumentalisé, mais c'est pas le sport qui va déclencher une guerre par la suite.
Cet été, Paris a connu les Jeux Olympiques, ça a donné lieu à de grandes fêtes, à des réjouissements pour notre nation. Et comme tous les Jeux Olympiques, c'est le théâtre d'un affrontement entre les nations du monde entier, avec notamment une lutte entre les États-Unis et la Chine au tableau des médailles. Dans quelle mesure est-ce que c'est important pour ces États, et notamment pour les États-Unis et la Chine, de bien figurer au tableau des médailles, voire de le remporter ?
Cette course au tableau des médailles, ça remonte en fait finalement à la guerre froide, où l'URSS a finalement rejoint en fait le mouvement olympique à partir des années 1950, alors que c'était pas le cas avant, parce qu'ils considéraient en tout cas les Jeux Olympiques comme un événement sportif bourgeois, du coup capitaliste. Mais après, ils se sont rendus compte qu'en fait, à travers le tableau des médailles, ils pouvaient en faire un champ pour participer à cette lutte de puissance qu'ils avaient vis-à-vis des États-Unis. Donc ce marqueur de puissance, c'était être le premier au niveau du tableau des médailles. Donc il y a eu cette lutte effectivement de 1952 au JO d'Helsinki jusqu'à la fin de l'URSS et les JO de Séoul de 1988. Mais après finalement ça a perduré, notamment parce que les États-Unis étaient premiers au tableau des médailles et parce que finalement le nouveau concurrent c'était la Chine. Et la Chine s'est dotée d'une politique sportive importante pour avoir des champions et pour pouvoir en tout cas à la fois accueillir les JO et pour pouvoir concurrencer les États-Unis. Et c'était notamment aux JO de Pékin en 2008, où pour la première fois la Chine avait devancé les États-Unis au tableau des médailles. Donc cette lutte est toujours présente. Et même après, pour des puissances plus intermédiaires, c'est toujours important d'être présent au niveau du tableau des médailles pour montrer que on est toujours présent et qu'on est toujours une puissance, notamment du fait des performances sportives. Et parfois, on peut faire des corollaires entre puissance sportive et le fait qu'en fait, le pays est en bonne santé économique. Mais ces parallèles ne peuvent pas être forcément tous corrélés. Mais ça joue, en tout cas, pour des événements comme les Jeux Olympiques, d'être présent et d'avoir des tableaux des médailles et de pouvoir, en tout cas, être dans le top 10, notamment pour la France.
Est-ce que dans certains États, les athlètes ont une pression de la part du pouvoir politique pour obtenir des résultats et faire rayonner la nation ?
Ah oui, peut y en avoir. Après, je pense que le cas le plus criant, c'est peut-être celui de la Corée du Nord, où on avait des images, en tout cas, je me souviens d'une plongeuse nord-coréenne lors des JO de Paris, où on voyait en tout cas qu'elle avait réussi à avoir une médaille. Et quand elle a réussi à avoir cette médaille de bronze, on la voyait sur son visage qui a été marquée effectivement par les efforts et qu'elle était en tout cas extrêmement aussi surveillée par les autorités nord-coréennes. Et qu'il y avait un enjeu en tout cas d'avoir cette médaille-là. Et puis je pense à l'exemple de la Corée du Nord, parce que à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, ils étaient aussi qualifiés. Et ils avaient vécu une véritable humiliation en se prenant un 7-0, je crois, contre le Portugal. Et ils étaient portés au nu quand ils étaient qualifiés. Et puis quand ils sont rentrés, on n'a plus trop su ce qu'étaient devenus les joueurs. Donc il y a des pressions, effectivement autour des résultats. Et ça c'est présent aussi aujourd'hui, mais c'était présent par le passé. Et je pense que l'exemple le plus criant, c'était les systèmes de, même parfois de dopage d'État qui avaient été mis en place au niveau de l'URSS ou de la RDA.
Dans cette veine de la Corée du Nord, est-ce que le sport reflète les tensions, par exemple, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ?
Après, oui, ça reflète toujours les tensions, même si y a eu certains matchs qui ont pu être annulés du fait, en tout cas, des tensions géopolitiques. Après, ça peut être, le sport a pu être aussi utilisé comme un moyen entre la Corée du Sud et la Corée du Nord pour tenter de mettre en place une réconciliation qui n'était pas forcément encore possible sur le terrain diplomatique, mais qui pouvait peut-être être possible avec le sport, parce que le sport, ça reste un objet peut-être moins officiel, mais finalement, où on s'engage moins si on fait notamment, je sais pas, une rencontre entre deux athlètes ou un match de football, ou aussi défiler sous la même bannière. C'était le cas lors des JO de Sydney en 2000, où la Corée du Sud et la Corée du Nord avaient défilé sous la même bannière unifiée. C'était le cas aussi aux JO d'hiver de Pyeongchang en 2018. Et donc là, c'est vrai que ça faisait un message symbolique fort. Ça voulait dire finalement qu'il y avait peut-être une solution entre Corée du Sud et Corée du Nord pour, si ce n'est arrivé à union, en tout cas arriver à une forme de paix. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. Mais ça restait en tout cas dans le cadre du symbole, d'un message. Mais c'est vrai que voilà, il y a des soubresauts entre la relation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, que parfois certains matchs ont lieu ou n'ont pas lieu en fait en fonction de la tension géopolitique. Donc on voit finalement que le terrain géopolitique, les relations géopolitiques entre les pays ont après des influences sur les compétitions sportives, notamment du fait que je vous disais que en termes de symbole, le poids d'une sélection nationale ou d'une délégation nationale officielle, ça a son importance parce que ça peut être vu comme un certain rôle d'ambassadeur du pays. Et puis on le voit, on parlait notamment du cas d'Israël, c'est pour ça qu'aussi il y avait une protection autour des athlètes israéliens lors des JO et aussi de l'équipe d'Israël lorsqu'elle s'est venue en France. Parce que certains voulaient s'attaquer à cette équipe, parce qu'en attaquant des athlètes israéliens, ils voulaient effectivement attaquer l'action de l'État d'Israël vis-à-vis du Moyen-Orient. Donc c'est là-dessus aussi où il y a ce rôle d'ambassadeur qui peut être important.
Taïwan avait sa délégation propre aux Jeux Olympiques de Paris ?
Alors oui, le cas de Taïwan est intéressant parce que finalement, j'en parle dans le livre Géopolympics, on voit que finalement, la reconnaissance en tant que Chine au sein du Comité international olympique, au sein du CIO, ça participait en tout cas à cette lutte entre la République populaire de Chine et Taïwan pour avoir ce nom de Chine reconnu au niveau international. Et donc ça va être finalement à partir de 1979, où la République populaire de Chine va être reconnue comme Chine au sein du CIO, et ça ne va plus être le cas de Taïwan. Mais par contre, la condition pour que la Chine, en tout cas, pour que la République populaire de Chine intègre le CIO et ce nom de Chine, c'est que Taïwan ne s'appelle plus Taïwan, en tout cas, dans les différentes compétitions organisées par le CIO, et donc maintenant, ils s'appellent finalement Taipei chinois. Et donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas Taïwan, en tout cas, en tant que nom présent, mais ils ont bien une délégation présente, mais ça a participé, en tout cas, à cette politique de la Chine pour être en tout cas reconnue comme la seule et unique Chine, et en tout cas au débat géopolitique qui a lieu jusqu'à présent.
Et juste après la pause musicale, à milieu d'été, on se retrouve pour parler de cette fameuse politique sportive de la Chine qui est évoquée depuis le début et que nous allons approfondir. A tout de suite, amis auditeurs. d'écouter l'hymne officiel de la Ligue des Champions, une compétition qui rassemble les meilleures équipes sportives de football de l'Europe. Nous retrouvons Kevin Vessière, auteur de Géopolympics, les grandes histoires géopolitiques des Jeux Olympiques aux éditions Max Milo, paru en 2024. Kevin Vessière, on parlait avec vous de la Chine et de cette politique sportive. On sent que c'est vraiment un instrument pour rayonner et pour accroître son impact, son influence sur le monde. Comment ça se manifeste concrètement ?
Bah concrètement, il y a eu un investissement, en tout cas du pouvoir chinois assez important depuis les années 90 pour en tout cas déjà être présent sur l'ensemble des sports et aussi parfois une certaine priorisation de certains sports pour avoir le plus de médailles possible au niveau des Jeux Olympiques. Donc là, on peut voir en tout cas qu'ils sont présents dans à peu près la plupart des disciplines et qu'ils sont présents au niveau de tableau des médailles, même pour la discipline un peu rêve finalement des Jeux Olympiques qu'est l'athlétisme, alors que c'était pas forcément le cas il y a quelques décennies que cela pour la Chine. Après, pour l'instant, la Chine, ce qui leur fait défaut, c'est le football. Donc ça, c'était un projet qui a été mis en place par Xi Jinping à partir de 2013, notamment à la fois avec en lien avec les investissements chinois faits par certains clubs, par certains entrepreneurs privés chinois, bon, qui sont très liés en tout cas au pouvoir chinois, en tout cas au niveau des clubs européens. Et après, il y a eu ce projet en tout cas de créer une super ligue chinoise de football en faisant venir des stars européennes, des entraîneurs européens à partir de 2015, notamment, je pense que la figure de proue, on se souvient à l'époque, c'était Carlos Tevez qui avait rejoint le projet avec aussi du Capello, des Cannavaro qui avaient rejoint aussi le projet. Et finalement, ça, on a pu voir que ça n'a pas forcément pris et que même au bout d'un certain moment, le pouvoir chinois a remis le holà pour que les clubs n'investissent plus autant sur le marché des transferts. Et donc tous les clubs ont en tout cas perdu leurs sponsors chinois et ont été finalement nationalisés pour rationaliser un peu plus ce championnat et que les clubs ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Et donc même au niveau de la sélection chinoise, même s'il y a un grand projet qui est mis en place avec la construction de stades, d'académies, le fait qu'ils fassent venir des éducateurs qui sont passés par la Masia, donc le centre de formation de Barcelone ou du Real Madrid, ça ne prend pas encore. Et puis ils en viennent même maintenant à renaturaliser des joueurs, notamment brésiliens, qui sont présents dans le championnat, pour compléter l'effectif qu'ils ont au sein de l'équipe nationale. Et donc là, même si au niveau de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique, Canada, il y a plus de places, notamment pour les pays asiatiques, ça va être très compliqué pour la Chine de se qualifier parce qu'ils sont à peine au niveau de la deuxième division, on va dire, des pays asiatiques du football.
Vous nous parliez des différentes délégations et c'était pour ces délégations un moyen de faire rayonner leur pays. Est-ce qu'il y a des petites nations qui ne sont pas, par exemple, pas reconnues par les autres et par l'ordre international qui arrivent quand même à affirmer une forme de souveraineté à travers le sport ?
Il y a plusieurs exemples. Déjà, on en parlait tout à l'heure, il y a le cas de la Palestine, hein, qui est finalement qui est membre observateur, en tout cas au sein de l'ONU, mais donc qui n'est pas un État membre de l'ONU, mais qui a en tout cas, qui est présent au sein du CIO, qui a son comité national olympique au sein du CIO, qui est aussi présent au sein de la FIFA, mais ça aussi, c'est corrélé à la situation géopolitique, parce que quand on regarde les dates, on voit que l'entrée au CIO et l'entrée à la FIFA, ça s'est fait en 95-96, donc finalement ça suivait les accords d'Oslo de 92, et donc c'est dans un processus finalement d'accompagner finalement ce processus de paix qui est en train de se construire entre la Palestine et puis Israël. Bon, après, finalement, on peut voir que la situation a dégénéré, mais en tout cas, c'est toujours présent. Et la Palestine, en tout cas, a une reconnaissance officielle et on peut la voir défiler, ce qui est très important pour des petits pays, notamment ceux qui ne sont pas forcément reconnus officiellement par tous, c'est d'être présent à cette cérémonie des délégations nationales et défiler des drapeaux au sein des Jeux Olympiques. Et donc, un autre exemple aussi qui est important, c'est celui du Kosovo, donc qui a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 et qui depuis est reconnu, qui n'est pas aussi membre de l'ONU parce qu'ils sont reconnus par une centaine d'États, mais après d'autres États ne le reconnaissent pas, notamment la Russie, mais vous avez aussi l'Espagne et la Chine parce qu'ils ne veulent pas créer un précédent en reconnaissant un État qui a déclaré son indépendance unilatéralement avec d'autres régions qui peuvent avoir des tendances indépendantistes au sein de leur pays. Et donc le Kosovo est présent effectivement au sein du CIO avec aussi des médailles remportées au niveau des Jeux Olympiques, notamment leur première participation médaille d'or à Rio. Donc ça, c'était un symbole fort pour eux parce que ça mettait en avant le drapeau du Kosovo. Et surtout l'équipe nationale qui ne s'est pas encore qualifiée pour une grande compétition type l'Euro, Mais ils en sont pas loin et ils ont une sélection qui en tout cas pourrait et qui est aussi comment dire, la composition aussi de cette équipe de Kosovo, c'est pas mal de joueurs qui ont émigré du fait de la guerre et qui après sont revenus vers le Kosovo, donc il y a un message politique assez fort et assumé au sein de cette équipe et qui peut être un porte-étendard pour une plus grande reconnaissance du Kosovo au niveau international.
Comment on peut expliquer les investissements massifs des pays du Moyen-Orient? On pense au Qatar qui investit dans le club du Paris Saint-Germain. Je pense également au club de Manchester City, je crois.
À Manchester City, c'est un Émirati, donc c'est le Cheikh Mansour. Et après, pour les Émirats Arabes Unis, c'est pas corrélé finalement à une politique étatique. Et puis, les Émirats Arabes Unis restent une fédération. Donc il y a quand même toujours un jeu d'influence entre Dubaï et Abu Dhabi. Et pour le Cheikh Mansour, lui, il est plus d'Abu Dhabi. Après, pour le cas du Qatar, on pourra faire l'historique plus en détail, mais je vais essayer de vous le résumer. C'est le Qatar a misé sur le sport parce que, notamment en 1995, parce que eux, ils avaient une logique, c'était finalement de vouloir se différencier des autres pays du Moyen-Orient. Parce qu'ils n'étaient pas connus, ils ont obtenu leur indépendance en 70, et surtout c'était comment dire, se faire connaître au niveau international, parce qu'il y avait un enjeu à l'époque, c'était de se faire finalement annexer par l'Arabie Saoudite, qui est la grande puissance régionale du Moyen-Orient, du Golfe Persique. Et donc ils ont misé sur le sport, parce que c'était un terrain qui n'était pas encore exploité par les pays du Moyen-Orient, et donc ils ont fait ça effectivement petit à petit, en accueillant des compétitions, après en intégrant certaines organisations sportives. Et finalement, la grande réussite de cette politique-là, ça a été l'accueil en tout cas des Jeux Asiatiques en 2006. Et après, ça a été surtout avoir la Coupe du Monde 2022 lors d'un vote en 2010 face à la grande candidature américaine. Donc là, tout le monde finalement est tombé des nues, peut-être au niveau, on va dire, du grand public, mais du fait de l'entrisme qu'ils avaient fait dans les organisations internationales sportives, ça n'avait peut-être moins surpris personne. Après, par contre, il y a eu des affaires qui sont sorties pour, en tout cas autour de l'achat de voix et que il y avait de la corruption autour de l'attribution de cette Coupe du Monde, mais c'était déjà en tout cas une réussite en soi pour le Qatar. Et donc après, au niveau des autres pays du Golfe Persique, il y a eu un certain mimétisme. Finalement, c'était avoir autant de prestige que le voisin. Et donc, c'est pour ça que les Émirats Arabes Unis ont commencé à investir, le Bahreïn aussi. Et l'Arabie Saoudite, c'était celui qui n'avait pas encore investi sur ce terrain-là. Et ils ont commencé à le faire, notamment depuis que Mohamed Ben Salman, qui est une figure peut-être plus jeune du régime conservateur du royaume saoudien, qui a commencé à mettre ça en place et vouloir concurrencer le Qatar sur ce terrain-là, notamment avec toute la guerre qu'il y avait, les tensions qu'il y avait entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Maintenant, les relations sont quelque peu plus apaisé, mais ça reste en tout cas des concurrents directs, et donc ça a participé en fait à cette concurrence entre les pays du Moyen-Orient pour investir sur ce terrain-là, et celui qui a le plus de prestige, qui arrive à avoir la plus grande compétition sur son territoire.
Je reviens sur les Jeux Olympiques, est-ce que vous pouvez nous raconter les histoires de ces sportifs qui fuient leur pays, et qui à travers leur visite à l'occasion des Jeux Olympiques, s'échappent et s'enfuient, et on ne les retrouve plus?
Oui, on évoquait effectivement le cas de la Corée du Nord tout à l'heure, donc c'est un cas qui peut effectivement être présent parce que les athlètes qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer profitent de cette fenêtre internationale pour ensuite fuir le régime et fuir leur pays. Après, il y a d'autres cas qui sont présents, et le cas le plus iconique pour chaque compétition internationale, même pas que des JO, parce qu'il y a aussi les Jeux panaméricains, c'est le cas de Cuba, où vous avez beaucoup d'athlètes qui font défection lors de ces compétitions et qui profitent effectivement du fait qu'ils ne peuvent pas trop se déplacer, qu'ils sont extrêmement surveillés, d'être dans un autre pays pour pouvoir fuir et pour avoir des meilleures conditions de vie et pour pas avoir cette pression aussi politique autour de leurs résultats. Donc oui, c'est effectivement présent, et c'est le cas de c'est Cuba en tout cas qui est le cas le plus criant là-dessus.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vous, de votre projet de géopolitique et de sport? Comment est-ce que vous imaginez la suite justement?
Ah, pour la suite, ça va être, je pense qu'on peut s'intéresser à l'e-sport, parce qu'il va y avoir des Jeux Olympiques d'e-sport en 2025 en Arabie Saoudite, et après il y aura une plus grande Coupe du Monde, donc celle qui sera en 2026 États-Unis, Mexique, Canada, et il y aura donc de nouveaux pays qui vont vouloir en tout cas se mettre en avant et faire briller grâce au sport en tout cas leur nom et leur drapeau.
Merci beaucoup Kevin Vessière d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes l'auteur de Géopolympics, les grandes histoires géopolitiques des Jeux Olympiques, paru en 2024 aux éditions Max Milo. Et merci à vous, amis auditeurs, pour votre fidélité, vous qui êtes toujours là, vous qui aimez cette émission. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez accéder au podcast en le diffusant largement autour de vous. Bonne semaine à tous, que la paix soit avec vous.